troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire sur le Second Empire. Ce matin, Anaïs Quien et Françoise Camard nous emmènent dans l'exposition spectaculaire Second Empire au Musée d'Orsay à Paris. Après avoir lundi évoqué avec Xavier Mauduit et Nicolas Chaudin le relatif oubli du Second Empire dans notre mémoire collective, puis hier vous avoir perdu et retrouvé tout de même au milieu des codes sociaux d'un bal masqué sous Napoléon III, nous vous conduisons ce matin dans l'exposition spectaculaire Second Empire au Musée d'Orsay à Paris, qui met en avant le foisonnement de la production picturale et des arts décoratifs de cette période. Balade à Orsay jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire par Anaïs Quien et Françoise Camard, avec les trois commissaires de cette exposition, Marie-Paul Vial, Yves Badetz et Paul Perrin.
Nous entrons dans la nouvelle exposition du Musée d'Orsay, Spectaculaire Second Empire, un titre bien énigmatique pour traverser cette période si mal aimée de l'histoire de France. Issu du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, du 2 décembre 1851, Napoléon III règnera 18 ans, c'est le dernier gouvernement monarchique que la France ait connu jusqu'ici. C'est un gouvernement qui s'installe donc par la force, bien éloigné de notre culture démocratique. Et cependant, le Second Empire reste primordial pour comprendre la mise en scène du pouvoir et la mise en scène de la société dont nous sommes les héritiers encore aujourd'hui. Autrement dit, si Napoléon III évoque les crinolines, la censure et l'oppression politique, c'est aussi un moment fondateur de modernisation dont la République va hériter après sa chute. Entrons donc dans cette exposition pour comprendre ce que fut ce dernier moment impérial sous le règne de Napoléon III avec ses trois commissaires, Marie-Paul Vial, Yves Badetz et Paul Perrin. Vous nous proposez en préambule de commencer curieusement par la fin, puisque la première image que rencontre le visiteur, ce sont les ruines du palais des Tuileries, ruines qui datent de 1871. Ce palais des Tuileries, qui était le siège du pouvoir impérial, représenté dans une toile du peintre Meissonier. Pourquoi avez-vous voulu collectivement, tous les trois, commencer par cette toile? Paul Perrin, est-ce que vous pouvez justement nous décrire un peu ce tableau apocalyptique?
On est du côté du jardin des Tuileries. On regarde vers le palais donc des Tuileries, vers le Louvre, et donc on voit à travers les ruines du palais et au milieu donc les décombres de ce palais, et notamment la salle des maréchaux qui était au premier niveau du palais des Tuileries et qui a été pendant 18 ans un petit peu le cœur de la fête impériale, de ce qu'on appelle donc cette fête impériale.
Qu'est-ce qu'on appelle justement cette fête impériale qui donne un de ses prétextes à cette exposition, Marie-Paul Vial?
Bien, la fête impériale, c'est d'abord le titre de nombreux de chapitres dans la plupart des ouvrages consacrés au Second Empire. Et c'est vrai que c'est l'image que l'on a retenue de cette période, une période fastueuse, une période où on aime s'amuser, une période où le couple impérial reçoit aux Tuileries, à Fontainebleau, à Compiègne notamment, dans ce qu'on appelle ces fameuses séries qui sont des moments festifs où le couple impérial invite à la fois des célébrités du monde de la culture et également la vieille aristocratie, la bourgeoisie montante. Et donc c'est cette image-là, c'est cette parenthèse un peu féerique que décrivent beaucoup de manuels et que décrivent aussi certains auteurs de l'époque, comme notamment Pauline de Metternich, la femme de l'ambassadeur d'Autriche, qui est proche de l'impératrice et qui, dans ses mémoires, raconte très très bien cette fête impériale. Et donc, commencer par un tableau qui montre les Tuileries en ruine, c'est un peu aussi une façon de prendre de la distance par rapport à cette fête impériale. C'est une histoire qui effectivement s'est finie tragiquement. Et pour nous qui avons vraiment conçu cette exposition manière, j'allais dire, enfin, que vraiment, c'est un récit que nous proposons à nos visiteurs. C'est une façon d'ouvrir comme ça sur une image de l'après, la fête impériale, et de construire notre récit de manière, je dirais, un peu cinématographique, comme une sorte de voyage et de flashback.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre ce tableau comme une image privilégiée par la République pour représenter le résultat de ce régime qui s'effondre en 1870, Paul Perrin?
Oui, et notamment le palais des Tuileries a un rôle important puisque justement la République va choisir de raser les ruines des Tuileries. Et en fait, quand le palais est incendié par la Commune, il reste en fait globalement debout. Mais la Troisième République, les parlementaires de la Troisième République, dans les années 1880, vont choisir pour vraiment empêcher toute restauration monarchique ou impériale et pour vraiment, disons, raser aussi, faire un peu table rase d'un passé justement monarchiste ou impérial, vont raser les ruines des Tuileries, et donc ce palais aujourd'hui n'existe plus.
Oui, parce qu'effectivement, Marie-Paul Vial, on voit bien que le centre du tableau, ce sont de véritables décombres. Par contre, les murs tiennent encore parfaitement.
Oui, à cette date, les murs tiennent encore, effectivement. Mais Meissonnier, donc le peintre qui a réalisé ce tableau, pose quand même au premier plan cet amas de pierres, de cailloux, de bouts de briques. Hein. Et c'est ça qui constitue en fait le cœur du tableau. Et là, on comprend bien de quoi il s'agit. Même si effectivement les murs du palais tiennent encore. Mais ce qu'il nous montre, c'est vraiment ça. C'est la ruine, les décombres viennent au premier plan.
Je propose qu'on passe maintenant à la salle suivante où justement on va rencontrer ce couple impérial qui va être leader dans cette instauration de la spectacularisation du régime. Alors dans cette première salle se trouvent quatre grandes toiles, notamment l'une qui évoque un épisode assez peu connu, une visite officielle d'urgence de Napoléon III qui visite les victimes d'une catastrophe naturelle, finalement, Paul Perrin. Quasiment une invention à ce moment-là. Et on voit bien à quel point il a fallu, Marie-Paul Vial, développer une communication, une propagande du régime pour pouvoir peut-être aussi donner de la légitimité et de l'assise à ce nouveau régime qui était une deuxième expérience impériale pour la France, mais qui était aussi issu d'un coup d'État de 1851. Il fallait à la fois convaincre l'intérieur du pays et puis également l'extérieur du pays, ce qu'on verra dans un deuxième temps. Mais ce tableau est très étonnant, Marie-Paul Vial. On voit au centre un Napoléon III qui est finalement assez peu apprêté.
Alors, la scène se passe à Tarascon. Il se trouve qu'en 1856, le Rhône a débordé. Il y a eu de très, très graves inondations. D'ailleurs, un photographe célèbre qui est Baldus a fait toute une campagne de photographie aussi sur ces inondations dans la vallée du Rhône. Et la ville de Tarascon est particulièrement touchée. Là, on reconnaît très, très bien la ville de Tarascon avec le clocher derrière. L'architecture est très, voilà, très parlante. C'est une vraie description de la ville. Et l'on voit sur les toits de tuiles, les fameuses tuiles romaines, donc pour bien montrer que l'eau est arrivée très très haut, on voit dans une barque, debout, Napoléon III faisant un geste vers une jeune femme qui est agenouillée et qui a fait elle-même un geste d'implorante avec les bras ouverts. Et Napoléon III, après lui, un officier de sa suite qui tient une bourse. Et l'empereur puise dans la bourse pour distribuer ses aumônes. Donc c'est une façon de montrer effectivement à quel point l'empereur est attentif au malheur de son peuple. Nous pouvons parler là effectivement de propagande d'une certaine manière. Ce tableau est une commande à un peintre à Bouguereau qui l'exécute pas en 1856 au moment où se passe l'événement, mais un peu plus tard, en 1857. Et c'est un véritable tableau d'histoire, d'histoire contemporaine, avec force détail. Dans la composition sur les toits, on voit des personnes qui sont heureuses, qui saluent la présence de l'empereur et qui le remercient. Donc c'est une façon, effectivement, d'aller en allant en devant de son peuple, disons le mot simplement. C'est effectivement une façon de faire de la propagande et de légitimer ce régime qui est issu tout de même, qui est issu d'un coup d'État, après avoir été porté au pouvoir par un vote, il est ensuite issu d'un coup d'État. Et donc dans cette salle précisément, nous évoquons ce que l'on pourrait appeler la geste napoléonienne, c'est-à-dire comment l'empereur et le couple impérial va se mettre en scène.
Là, il s'agit d'un événement intérieur à la France, puisque nous sommes à Tarascon. Et en regard de cette grande toile, on en voit une autre. Et là, il est plutôt question, finalement, à la fois de communiquer sur les relations et sur le prestige de la France à l'extérieur. Mais on voit représenter donc une ambassade siamoise. D'ailleurs, la posture des ambassadeurs est assez impressionnante, puisqu'ils sont quasiment couchés sur ce tapis, se prosternant pour saluer l'empereur et l'impératrice qu'ils viennent saluer à Fontainebleau, je crois.
Oui, exactement. C'est un tableau donc qui relate la réception des ambassadeurs siamois au château de Fontainebleau au début de l'été 1861 par donc l'empereur et l'impératrice. C'est un épisode assez important dans l'histoire diplomatique française sous le Second Empire. Une des volontés importantes donc de Napoléon III, c'est de remettre aussi la France au cœur de la diplomatie mondiale. Et depuis 1815, en fait, la France avait été exclue un petit peu de la politique européenne et internationale. Donc toutes les guerres, toute la diplomatie que mène Napoléon III, c'est aussi pour redonner à la France son prestige et la remettre au cœur de cette vie internationale. Alors l'ambassade siamoise, elle est notamment organisée à cause du fait que donc Napoléon III est en concurrence avec la reine Victoria, et la reine Victoria a déjà reçu les ambassadeurs du Siam à Londres, et donc il faut aussi que la France se manifeste et signe un rapport, un traité diplomatique avec le nouveau souverain siamois. Alors ensuite, cette ambassade est dépeinte par le jeune peintre Jérôme, à qui on passe la commande de ce tableau. Et ce tableau doit ensuite figurer au musée d'histoire de France du château de Versailles. Donc c'est vraiment un choix important de Napoléon III de faire représenter cet épisode, qui doit ensuite, d'une certaine manière, représenter son règne au musée d'histoire de France de Versailles. Il faut rappeler aussi que parmi les actions de Napoléon III, il y a la création d'un musée des souverains au Louvre, qui était un musée un peu éphémère, mais qui avait pour but justement aussi de légitimer le Second Empire en replaçant Napoléon III dans toute une histoire de France, depuis les Mérovingiens jusqu'à Louis XIV et jusqu'à ensuite Napoléon Ier. Et finalement, cette scène ici, elle a pour but aussi de légitimer le pouvoir de l'empereur, puisqu'ici, finalement, Napoléon III, d'une certaine manière, singe Louis XIV, puisque la dernière ambassade du Siam avait eu lieu donc à la fin du XVIIe siècle à Versailles. Et non seulement l'ambassade, mais également le tableau, faire référence à cette ambassade sous Louis XIV.
Dans cette première salle, Yves Badette, on est entouré à la fois de peintures, on voit également une photo de Napoléon III, un buste que je vous ai vu caresser pendant l'interview, et également une pendule. Une pendule extrêmement décorative. Vous pouvez nous la commenter ?
Oui, juste une parenthèse. La photo n'est pas celle de Napoléon III, mais celle du prince-président qui n'est pas encore Napoléon III.
Il lui ressemble beaucoup de loin.
Voilà, c'est le même, mais avant le coup d'État.
C'est juste la même mise en scène, la même coupe de cheveux, le même...
Voilà,
et
le buste, d'ailleurs, c'est le buste de Napoléon III, alors qu'il est empereur, effectivement. Mais la pendule est effectivement une pendule commémorative au coup d'État, sur laquelle sont affichés le nombre de voix du plébiscite. Et d'ailleurs, dans les médaillons est gravé également l'écho au Premier Empire avec la fameuse date de décembre qui renvoie à Napoléon Ier.
Pour trouver une assise à ce pouvoir, il faut travailler, en tout cas c'est ce que vont faire Eugénie et Napoléon III, il faut travailler sur l'image de ce couple impérial, travailler sur la façon dont on va se représenter et dont on va diffuser son image au sein de l'Empire français et notamment en France. Alors, dans cette salle, vous avez mis en regard un immense portrait de Napoléon III et un autre portrait d'Eugénie. Entre les deux, on voit une vitrine avec quelques couronnes, mais j'aimerais vous faire commenter davantage le choix qu'ont fait les deux régnants dans leur manière de se faire représenter.
Oui, donc les deux tableaux que vous voyez ici sont les deux portraits officiels, en fait les deux premiers portraits officiels du couple impérial, peints par le peintre allemand Winterhalter, qui est à ce moment-là le peintre des cours d'Europe, qui a déjà été le peintre officiel de la monarchie de Juillet, qui est le portraitiste officiel de la famille de la reine Victoria. Et donc Napoléon III et Eugénie font le choix de cet artiste qui est le meilleur à ce moment-là pour tout ce qui concerne, disons, les portraits officiels. Ce sont deux portraits en pied. On voit l'empereur et l'impératrice dans des intérieurs et en même temps, à chaque fois, il y a une échappée vers un paysage. Alors, Napoléon III, il y a une échappée vers le palais du Louvre et des Tuileries, qui est le centre du pouvoir. Et puis, pour Eugénie, on voit une échappée vers le jardin du château de Saint-Cloud, qui a été une de ses résidences favorites.
Donc, la femme reste dans l'espace domestique, finalement, des propriétés du couple impérial.
Et puis, l'espace aussi naturel, aussi. Il y a un lien aussi qui est fait entre la femme et la nature. D'ailleurs, il y a souvent un lien qui est fait entre Eugénie et les fleurs. Il y a aussi une association de ce type-là. Et d'ailleurs, Napoléon III, quand il va faire son discours pour présenter son projet donc de mariage avec Eugénie de Guzman, comtesse de Théba, il explique justement que donc non seulement c'est un mariage d'amour, que ce n'est pas un mariage avec une princesse, que c'est quelque chose de différent, de moderne finalement. Et il explique aussi que Eugénie va être l'ornement du trône.
Et la question du portrait va devenir un des enjeux majeurs de l'époque, pas seulement pour le couple impérial. Je vous propose qu'on aille d'ailleurs tout de suite dans la salle des portraits. Nous voilà dans la salle des portraits, il y a une profusion d'images sous le Second Empire Paul Perrin. C'est-à-dire qu'on voit que la peinture est encore au premier plan, mais la photographie se diffuse aussi au grand galop sous le règne de Napoléon III. Pourquoi finalement cette question du portrait va-t-elle prendre tant d'importance jusqu'à créer des querelles dans la société du Second Empire ?
Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'on a choisi de consacrer une salle importante de l'exposition à cette question du portrait, parce qu'elle résume bien un certain nombre d'enjeux, à la fois sociaux et artistiques de la période, avec notamment ce lien entre peinture et photographie. Donc les six messes de la salle sont occupées par des grandes peintures de portraits, des portraits en pied, des portraits de groupe, des portraits en buste aussi. Et puis le centre de la salle, elle, est occupée par des tables qui présentent des photographies de portraits faites sous le Second Empire. Donc l'idée ici, c'était non seulement d'amener finalement le visiteur de l'exposition à rencontrer la société du Second Empire, et voir comment finalement cette société choisit de se faire représenter, quels sont ses codes et comment petit à petit aussi les artistes de l'avant-garde aussi vont révolutionner ou en tout cas se réapproprier ces codes. Donc par exemple ici on a le mur de gauche qui est occupé par des portraits en pied et on commence avec le portrait de Napoléon III par Cabanel. Donc on a vu juste avant le portrait de Napoléon III par Winterhalter qui est le premier portrait donc dit officiel où l'empereur est en costume militaire avec les régalias dans l'apparat donc d'un palais. Et on voit ici le dernier grand portrait en pied de Napoléon III fait par un jeune artiste, Cabanel, commandé par l'impératrice Eugénie qui lui a demandé un portrait officiel mais intime. Et donc l'idée ici, on voit Napoléon III n'est pas représenté en militaire, il est représenté en costume civil, il est en habit du soir, en culotte et bas de soie noire. Et en fait, il s'apprête à recevoir ses invités lors d'une soirée au palais des Tuileries. Donc c'est une image en fait très moderne, c'est la première fois qu'on représente un souverain de cette manière-là. Et l'idée était justement de montrer un souverain peut-être plus proche, plus accessible, plus proche du peuple, ou en tout cas proche de l'élite du Second Empire. Alors on retrouve toujours quand même la couronne et le sceptre qui sont posés sur un coussin derrière, on retrouve le manteau d'hermine, mais finalement en fait les visiteurs et la critique qui va voir ce tableau va trouver que le manteau d'hermine est un peu jeté comme ça, un peu négligemment, que la couronne, on la voit pas très bien, et que finalement, c'est pas du tout correct de représenter un souverain de cette manière-là.
Et puis sa posture est assez
étonnante. La posture est un peu décontractée, voilà, il est un peu décontracté, il pose sa main sur une table, et puis voilà, il nous regarde de son air un peu, ce regard caractéristique de l'empereur, un peu à la fois morne et un peu perçant. Et en fait, la critique ne va pas du tout aimer ce tableau, on va considérer que finalement, elle dévoie la dignité impériale, et que finalement, on n'a pas du tout, l'empereur n'a pas à se faire représenter de cette manière-là. Donc ce que l'on montre après aussi, ce sont d'autres grands portraits. On voit comment, donc d'un côté, l'empereur essaye finalement de se représenter d'une manière plus bourgeoise, et de l'autre côté, comment les bourgeois, justement, cette nouvelle société enrichie du Second Empire, va essayer au contraire de singer les grands modèles aristocratiques avec ces grands portraits en pied. Et on a par exemple le portrait de Madame Gaudibert par Monet, donc un genre où on n'attendrait pas forcément Claude Monet, mais on voit qu'ici, donc, il a représenté la femme d'un bourgeois du Havre, qui donc a choisi de se faire représenter en pied, dans une très belle robe, dans son intérieur. Et donc on voit, voilà, la manière dont cette nouvelle population singe, en tout cas, s'approprie les codes de l'aristocratie, avec le portrait peint, mais aussi le portrait photographique. Et ce tableau-là, par exemple, le tableau de Monet, on voit que Monet puise non seulement dans la tradition du portrait peint, mais aussi dans le portrait photo. Et en fait, la mise en scène avec le petit guéridon à côté de la femme, les fleurs posées sur la table, la pose aussi de la femme qui met en valeur la traîne de sa robe.
Et tout pas ça, du tout. Par contre, on ne voit pas son visage.
Pas du tout son visage, oui. Et tout ça est pris, en fait, est plutôt inspiré par le portrait photographique qui connaît à ce moment-là un boom extraordinaire dû aux évolutions de la technique qui permettent de se payer beaucoup plus facilement. Enfin, c'est beaucoup moins cher, en fait, de se faire tirer le portrait à ce moment-là.
Mais tout le monde se met à se faire tirer le portrait.
Alors, pas tout le monde, mais en tout cas, une société beaucoup plus large qu'auparavant, donc a accès à l'image de soi, grâce au portrait photographique, et notamment grâce à un procédé qui s'appelle la photo carte de visite, qui est inventé par le photographe Disdéry en 1854, et qui permet, en fait, par la réduction du format de la photo, une diffusion un coût beaucoup moins important, et ça va donc connaître un succès extraordinaire, et toute la société va passer dans l'atelier de Disdéry et des autres photographes carte de visite, pour ensuite repartir avec ces petites photos que l'on échange, que l'on met dans des albums. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a non seulement une démocratisation de l'accès à l'image de soi, mais il y a aussi une forme d'usage public de l'image de soi. Un peu comme aujourd'hui avec nos réseaux sociaux, d'une certaine manière, l'image, le portrait, il est là aussi pour être échangé, pour être montré et pour être public, en fait.
Et pourquoi cela, Marie-Paul Vial? Pourquoi tout à coup cette possibilité de se faire représenter connaît une telle fortune sous le Second Empire? Pourquoi a-t-on tant besoin de tous se montrer? Ce n'est pas uniquement pour copier le modèle impérial.
Non, c'est aussi parce que on assiste effectivement à l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui va donc pas toujours avoir les moyens d'aller convoquer Ingres ou Manet ou Monet. Et puis ça coïncide aussi à un moment d'une découverte. De même que nous, aujourd'hui, nous sommes là avec nos petits iPhones à nous prendre en photo dans tous les sens, dans tous les coins. Je pense qu'il y a cette découverte-là qui fait que s'il va y avoir une véritable attraction pour cette nouveauté qui reste quand même accessible malgré tout à certaines bourses, tout en étant certainement un petit peu onéreux quand même, mais bon. Et donc il y a cette volonté, voilà, de pouvoir échanger, diffuser son image. Et c'est pas seulement d'ailleurs la bourgeoisie ou une certaine aristocratie qui va utiliser ce médium, c'est aussi la famille impériale elle-même qui va constituer des albums. Et en ce sens, comme le disait Paul Perrin tout à l'heure à propos de cet empereur qui se veut proche de son peuple, enfin, qui paraît comme une sorte de bon bourgeois prêt à sortir, en quelque sorte. Qui piétine quasiment l'hermine. Et bien de même, la famille impériale va aussi utiliser la photographie pour diffuser cette image d'une famille unie, qui réunit ses amis, qui se fait prendre en photographie sur les marches du palais impérial de Compiègne ou de Fontainebleau. Donc il y a une véritable montée en puissance, et un petit peu qui reflète un peu ce goût un peu narcissique d'une société qui se regarde elle-même, qui a besoin d'un miroir, je dirais, comme nous avons aussi aujourd'hui, nous assistons à ce même besoin d'un miroir.
Yves Badette, Cet avènement de la bourgeoisie sous le Second Empire va également créer des changements dans la manière d'habiter les intérieurs. Tout à coup, on se met à se préoccuper des intérieurs de manière un petit peu différente et à peupler finalement son univers domestique de manière différente.
Oui, il est évident que toute bourgeoisie correspond des intérieurs et les modèles vont être extrêmement variés. D'ailleurs, la bourgeoisie va se plaire, voire se complaire, à se faire représenter dans son intérieur. Dans son décor, oui, souvent. D'ailleurs, on le voit très bien déjà dans le portrait, le merveilleux portrait de Mme Moitessier, qui est venu pour cette exposition de manière quasi exceptionnelle, dirais-je. C'est un tableau qui ne quitte jamais son musée. Et on voit bien que l'importance de l'intérieur, qui est suggérée, est quand même très présent entre les potiches du Japon, etc. C'est vrai que avec cette bourgeoisie va probablement apparaître un culte de l'intérieur qui va pour beaucoup participer aussi et soutenir les industries de luxe parisiennes qui vont rayonner de fait très au-delà, très largement dans tous les cas, et très au-delà de l'Europe. Mais il y a par exemple la photosculpture va devenir elle-même, ce sont ces biscuits qui sont en fait le résultat de prises de 24 photos simultanément et qui sont lues par un pantographe sur les profils et qui donnent lieu au final à une petite statue en biscuit qui représente le portrait.
C'est une photo en trois dimensions.
C'est la photo en trois dimensions qui est un brevet qui a été exploité à Paris pendant quelques années et qui en fait a eu un certain succès, mais pas suffisamment pour d'ailleurs durer, puisqu'après ça ce brevet a été exploité successivement à Londres puis aux États-Unis et est tombé dans l'oubli. Et existe aujourd'hui dans la photo 3D, puisqu'effectivement on vous fait aujourd'hui un buste à partir de votre photo. C'est exactement le même principe, mais c'est l'introduction ou l'accès aussi à une certaine bourgeoisie de la sculpture, de la statue qui entre comme un bibelot dans l'intérieur, si vous voulez.
Ce qui nous frappe aussi, Yves Badet, plus on avance dans cette exposition, plus on se rend compte à la fois de la profusion des images, quelle que soit leur nature, mais également la profusion d'objets. Typiquement, dans ce portrait d'Émile Zola par Édouard Manet, le décor est rempli d'objets. Alors, de tableaux, de livres, de plumes, d'encriers, de fauteuils.
Alors, c'est très vrai que la société du 19e siècle, entre le début du 19e siècle, voire la période révolutionnaire ou la fin du 18e siècle, et la fin du 19e siècle, on va assister, sur ces 100 ans-là, à une mutation très profonde, à un envahissement des intérieurs de tout type d'objets mobiliers. Préalablement, les intérieurs étaient meublés, on évoluait dans des intérieurs qui étaient meublés, mais avec une certaine forme d'économie, sauf dans des intérieurs extrêmement riches, par exemple chez Marie-Antoinette, dans les salles, là, effectivement, tout croulait de petits objets très précieux, mais il y avait une forme d'étiquette, si vous voulez, dans l'ameublement, qui va petit à petit quand même se perdre, et c'est vrai que le Second Empire va donner lieu à un sentiment de profusion, mais qui va aussi être pour beaucoup lié d'abord à l'agrandissement des cadres de vie, c'est-à-dire toute cette bourgeoisie va habiter les immeubles haussmanniens, desquels en général ils ne sont que locataires, mais ils habitent de très grands appartements, avec des successions de pièces de salon qu'il faut meubler effectivement, et tout ça va être à l'aune de leur puissance financière, donc plus on est riche, plus il faudra montrer qu'on l'est. Effectivement, les intérieurs vont devenir très cossus, selon une certaine esthétique. Oui. Mais ce qui est intéressant dans la société du Second Empire, c'est que finalement, c'est la construction de notre société contemporaine. En réalité, c'est la première fois que jusqu'au sommet du pouvoir, on parle d'argent. Dans les anciennes cours, si vous voulez, on ne parlait pas d'argent. C'était tout à fait malséant. Or, à partir du Second Empire, toutes les couches sociales parlent d'argent. Et la bourgeoisie parle d'argent, la banque parle d'argent, et dans le cercle de l'empereur, on parle d'argent. Si vous voulez, les moteurs, les ressorts économiques sont déterminants, absolument déterminants.
C'est une période de prospérité économique, donc on a de l'argent et on en parle très souvent.
Et on en parle, voilà. Vieille Castel, dans ses mémoires, parle de manière...
Et on dépense.
Alors, on le dépense, mais on spécule aussi beaucoup. Et Vieille Castel parle de cette bourgeoisie qui va tenter de spéculer sur les dots des filles. Il y a un marché de la dot, oui, ça c'est probablement une constante de tout le 19e siècle, oui.
Voilà la vie parisienne du plaisir, Roberte d'Alain, oui, voilà la vie parisienne, voilà le bonheur est là.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Des amants, des maîtresses qui s'émeutent en riant, des serments, des promesses qu'on porte à le vent, des chansons qui babillent, des baisers plus érondes, des flacons qui pétillent en avant les grands crus.
En fait, on a donc dans l'exposition une partie du parcours qui est dédiée un peu au divertissement et loisirs de cette société du Second Empire et comment elle invente justement cette nouvelle société du spectacle et des loisirs.
On remplit d'objets, mais on remplit aussi d'activités.
Voilà, c'est ça. On s'occupe et on occupe aussi un temps qui est le temps justement qui n'est pas celui de l'activité, qui est celui du loisir. Et donc la population va au théâtre. On a toute une salle de l'exposition qui est dédiée à l'activité florissante des théâtres sous le Second Empire. Et on a donc cette petite salle qui nous permet d'évoquer ces nouvelles activités, le canotage, le sport aussi avec le sport hippique, les champs de course, peint par Degas, le canotage donc par exemple avec Renoir ou Monet à la Grenouillère, et puis le développement des stations thermales ou balnéaires avec ici un stand d'œuvres par exemple qui représente la plage de Trouville par Boudin, par Courbet ou par Monet. Et donc, ce qu'on essaye de montrer ici, c'est plutôt le lien entre justement ces nouvelles activités qui donc ensuite sont appropriés par les artistes comme des nouveaux sujets de peinture, et ces nouveaux sujets de peinture sont l'occasion d'une peinture nouvelle, différente, plus claire, plus lumineuse, une touche plus spontanée, et finalement s'invente aussi grâce à ces nouveaux sujets une nouvelle manière de voir et une nouvelle manière de peindre.
Ça correspond aussi peut-être à un renouveau du discours politique. On a la sensation que sous Napoléon III, la question du bonheur apparaît alors que ça faisait très longtemps qu'elle avait disparu du discours politique.
Il y a l'idée, sans doute chez Napoléon III, d'une forme d'épanouissement de la société. On avait déjà eu avec Louis-Philippe, Enrichissez-vous, hein, quand même, qui a été aussi l'idée de, voilà, que la société devait devenir prospère, etc. Mais il y a cette idée, oui, d'épanouissement personnel aussi, finalement, déjà, c'est un peu anachronique comme terme, mais.
Et quelle que soit sa classe sociale, finalement.
Alors ça, ça reste quand même limité à une partie de la société.
Dans l'objectif, est-ce qu'il l'atteint? Je ne sais pas.
Il y a cette idée, en tout cas, ce que dans l'économie de Napoléon III, ce qu'on appelle les dépenses productives aussi, qui est que la dépense va permettre de soutenir l'activité économique et que l'enrichissement, en fait, disons, l'élite de la société va ensuite rejaillir sur toutes les classes sociales et que tout ça va, en fin de compte, bénéficier au peuple.
Et ces investissements, c'est notamment la transformation de Paris.
C'est la transformation de Paris, c'est les emprunts énormes faits par la ville de Paris sous Haussmann, donc qui endette complètement la ville. Mais le but est évidemment donc de soutenir l'activité économique, de créer de la richesse.
Et de permettre aussi des espaces verts, de modifier les habitats ouvriers, tout ce genre de choses qui intéressent quand même grandement l'empereur.
Alors ça l'intéresse beaucoup avant qu'il ne devienne empereur. Il écrit plusieurs livres, justement, L'extinction du paupérisme. Il réfléchit à ces questions-là, notamment quand il est emprisonné au fort de Ham, après un premier coup d'État raté. Ça l'intéresse un petit peu moins quand il est empereur. On voit, par exemple, que notamment Haussmann, ça l'intéresse assez peu, en fait, la question du logement ouvrier. Alors ça réapparaît à la fin du régime, en 1867, lors de l'Expo universel, où Napoléon III crée une sorte de concours pour créer des logements logements sociaux, en fait, on dirait. Mais c'est quand même quelque chose qui est un peu mis de côté pendant le régime, qui quand même se concentre, notamment dans le cadre de l'urbanisme, sur les grands travaux de Paris qui sont destinés à une population aisée.
Parce qu'on est dans une époque, effectivement, dans une période où on a cette préoccupation qui est celle de l'hygiène. Il y a eu beaucoup d'épidémies, hein, des épidémies de choléra, qui sont d'ailleurs, il y a une œuvre, un vase qui évoque justement l'épidémie de choléra à Amiens et l'impératrice allant au soutien des colériques.
Donc il faut faire circuler l'air.
Il faut de l'eau potable, il faut s'oxygéner, il faut marcher, il faut aller dans les jardins. Donc c'est cette préoccupation-là hygiéniste qui va conduire à la fois les transformations urbaines et puis cette multiplication des squares et des jardins. Et puis il y a aussi un peu de l'anglomanie, je crois, de Napoléon III, n'oublions pas. Il a vécu en exil en Angleterre, il gardera d'ailleurs toujours des liens en Angleterre, parce qu'il ira en exil après la défaite également, et que l'on sait très bien le goût des Anglais pour la nature, pour le square, pour les parcs et les jardins.
Yves Badette, justement, Marie-Paul Vial parlait de cette anglomanie de Napoléon III. Il y a une stimulation franco-anglaise sous le Second Empire aussi, pour ne pas dire une rivalité, et notamment pour ces très grandes expositions qu'on invente, qui sont les expositions universelles. Et c'est une des salles finales, d'ailleurs, de cette grande exposition sur le Second Empire que vous avez voulu consacrer à la question de l'exposition universelle, qui là rassemble à la fois les arts, les beaux-arts, l'artisanat, mais également les progrès techniques et scientifiques.
Les rapports de la France et de l'Angleterre sont déterminants pendant tout le XIXe siècle. C'est bien l'échiquier politique du monde entier se passe bel et bien entre la France, dans les rapports de la France et de l'Angleterre. Et les expositions universelles qui vont rythmer le Second Empire tout particulièrement vont d'un côté mettre en avant la suprématie industrielle indéniable de l'Angleterre qui a une grande avancée sur tout ce qui est production industrielle, mais toujours conserver à la France une forme de suprématie dans le domaine des arts décoratifs et des arts appliqués. Mais cela est vrai jusqu'à un certain point, c'est 1867. 1867, c'est une grande exposition dont effectivement on a terminé par une salle qui évoque ce qu'étaient ces expositions universelles. Évidemment, on ne fait qu'évoquer ces réunions complètement internationales.
Qui avaient des proportions totalement démesurées, c'est impossible.
Les proportions étaient démesurées et n'ont été que croissantes pendant tout l'Empire. Avoir à l'esprit que, alors que Paris est quand même encore en plein travaux, que l'exposition de 1867 qui va marquer l'apogée du Second Empire va réunir 11 millions de visiteurs dans Paris en travaux. Donc imaginez si aujourd'hui on recevait 11 millions de visiteurs sur 6 mois de l'année, ce que cela représenterait déjà dans le Paris tel qu'il est aujourd'hui. Donc à l'époque, évidemment, on ne se rend pas compte de l'immense choc que cela représente, culturel, puisqu'évidemment le monde entier se retrouve quand même ici.
Je vous propose que l'on se rende justement dans cette salle pour qu'on se rende compte de ce qu'on pouvait y voir, tout simplement.
On se rend compte de l'immensité des propositions de tous azimuts. Alors évidemment, la salle que nous avons construite ici regroupe des objets qui sont français, qui sont des objets qui ont été présentés dans plusieurs expositions universelles, dont celle de 55 qui était donc à Paris, celle de 62 et celle de 62 qui était à Londres et celle de 67. 67, c'est vraiment l'apogée du régime, c'est une démonstration absolument colossale, le palais dans lequel se développe l'industrie et qui a été conçu pour et lui-même extrêmement ingénieux, avec un système ovale découpé en quartiers qui permet finalement d'avoir une lecture par technique et par pays, donc à deux vitesses dans tous les domaines. Puisqu'évidemment, l'exposition universelle aborde évidemment tous les progrès techniques que nous n'avons pas du tout abordés dans cette exposition, parce qu'on y découvre des ascenseurs. Tout ça est implanté dans un parc dans lequel il y a des aquariums d'eau salée, d'eau douce, des restaurants de tous les pays et de toute la gastronomie du monde.
Des machines industrielles.
Des machines industrielles les plus performantes, que ce soit à vapeur ou autre, enfin, de l'électricité. Enfin, c'est une réunion absolument inouïe. Oui. Alors, dans les arts décoratifs, qui restent encore le fleuron d'application, je dirais, ou d'excellence de l'art français, on constate, tous les critiques constatent que l'Angleterre a fait des progrès immenses depuis les premières expositions et qui rattrape en réalité le niveau de savoir-faire de la France, qui conserve une sorte d'hégémonie, mais quand même avec une Angleterre qui s'est remarquablement adaptée et qui a beaucoup évolué.
Oui, Bennett, on a du mal à définir ce que serait un style Second Empire.
Mais justement, le style du Second Empire, c'est pas un style, sont les styles issus de la référence et de la culture, c'est l'éclectisme. C'est l'éclectisme, mais qui est finalement, qui a déjà évolué pendant le Second Empire, puisque c'est un courant, ce courant d'éclectisme apparaît quand même déjà à la fin du règne de Louis-Philippe, dans tous les cas, et il ne fait que s'affiner d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on a fait se rapprocher deux tables de style qui sont des interprétations Louis XVI, l'une qui date de l'exposition de 55, l'autre de celle de 67. On y décèle une forme d'évolution.
Et d'ailleurs, on peut s'étonner qu'au cours de l'exposition universelle de 1867, un des grands invités soit Louis XVI, Hugues Badet.
Non, pas du tout, parce que l'impératrice, le pouvoir, il y a une salle dans l'exposition qui explique un peu cela, les cadres de vie des souverains sont des palais historiques qui sont lourdement marqués par les décors du XVIIIe, et les souverains, comme leurs prédécesseurs d'une certaine manière, souvent s'adaptent à ces décors, à ces boiseries qui sont de notre régime. Et donc, effectivement, ils vont à la fois réunir autour d'eux des objets anciens du garde-meuble issus des collections de l'ancien garde-meuble royal, par goût, ça c'est le goût de génie, on le sait, elle achètera certains meubles d'ailleurs, parfois fort chers dans des ventes publiques, et puis elle complétera cela avec des copies, et tout ça sera associé à la fois du mobilier confortable et moderne, ça c'est le côté anglais justement, la tentation contemporaine, avec du chauffage au sol, avec des choses techniques assez finalement pointu pour l'époque, et en même temps sur les murs il y aura de la peinture contemporaine achetée dans les salons par l'empereur et l'impératrice, c'est-à-dire ils ne chercheront pas à vivre dans un décor qui soit une reconstitution, mais ils vivront de manière contemporaine avec une idée dans des intérieurs type collectionneur, comme le feront d'ailleurs les Rothschild chez eux, qui vivront avec des collections de meubles du 18e qui constitueront majoritairement au 19e siècle et qui vivront environnés de peintures, de chefs-d'œuvre, de la peinture ancienne, mais alors que l'empereur et l'impératrice vont vivre avec la peinture moderne. Et effectivement, y a-t-il un style propre au Second Empire? Non, il y a des sociétés et des courants et des tendances. Et c'est vrai à tel point que dans tout appartement du Second Empire qui se respecte, vous avez un salon, une salle à manger Louis XIV en général, un salon Louis XV et un Louis XVI pour le grand et le petit, et que les styles s'accommodent de chacune des pièces. Et pareil dans les châteaux de province qui font aussi un peu de néo-gothique, un peu de néo-renaissance. Si vous voulez, tout le monde y développe. Mais c'est aussi la période où apparaît le japonisme, ce qu'on voit dans les orfèvreries de Christophe Lemayet. Mais on est également réceptif au néo-grec qui va trouver chez Baccarat des expressions nouvelles dans des vers traités en presque encamés, avec des scènes à l'antique, mais qui donneront aussi lieu à des meubles comme le meuble de Deal, avec les gros anneaux, sur lequel il y a un bas-relief qui est déjà très 1900, dans lequel il y a toute cette légèreté de 1900. Mais c'est aussi un régime qui, si vous voulez, nous n'avons pas, au travers de l'exposition, développé l'aspect des relations avec ce qu'on appelait les colonies. Or, il y aurait là aussi un sujet immense, si vous voulez, parce que c'est aussi la période du partage du monde avec l'Angleterre. Et la France, il y a un rôle aussi qui n'est pas négligeable. Et beaucoup de Français s'implantent à cette époque-là, en Afrique du Nord aussi. C'est très complexe, la société du Second Empire, si vous voulez.
On a bien compris qu'il n'était pas possible de tout traiter du Second Empire dans cette exposition qui est finalement très, très modeste à l'échelle de tout ce qu'a produit cette période. Par contre, on va se diriger vers la toute dernière salle de cette exposition où là, on revient à la fin qu'on rencontrait dès le début de cette exposition avec les ruines des Tuileries. Cette fois-ci, c'est une autre fin, une autre représentation de la fin que vous avez choisi, tous les trois commissaires de cette exposition spectaculaire Second Empire, que vous avez choisi de nous montrer en manière de post-face de ce scénario muséographique que nous venons de traverser très rapidement.
Oui. Ah, pardon. Donc, c'est vrai que nous l'avons choisi tous les trois. C'est un tableau qui est conservé, de James Tissot, qui est conservé au palais de Compiègne et qui montre donc l'impératrice Eugénie en grand deuil, accompagné du prince qui porte un uniforme anglais. Ils sont en exil, l'empereur est donc mort. Et nous avons été très, comment dire ça, j'allais dire presque séduits, n'est-ce pas, Paul et Yves, par ce tableau, parce que ça nous paraissait être, en contrepoint des ruines qui ouvrent l'exposition, une image tellement symbolique, en fait, de cette fin de règne. C'est dans un parc, c'est l'automne, c'est une image totalement, comment dire, nostalgique.
On a, oui, là, l'image est moins cruelle que la première des ruines et des gravats qui marquent l'entrée de l'exposition.
Oui, elle est différente, effectivement. Elle est dans un autre registre, dans un registre poétique, mais qui est quand même celui de la nostalgie. Et c'est ce qui nous avait séduit, n'est-ce pas, Paul?
Oui, il y a aussi l'idée, en fait, les deux, l'œuvre du début et l'œuvre de fin, ce sont deux ellipses qui permettent, voilà, de parler de la chute du régime, qui sont deux visions différentes aussi, et d'une certaine manière, deux postérités du Second Empire. La première, donc, est celle plutôt qui va, voilà, on explique que c'est le palais des Tuileries va être détruit par la République, donc c'est plutôt l'image de la chute, d'un désastre pour la nation française. C'est la vision qui va être ensuite soutenue par la Troisième République, qui a besoin du Second Empire un peu comme d'un repoussoir pour s'affirmer aussi au début. Et donc il y a toute cette tradition historiographique plutôt républicaine qui va dénigrer le Second Empire, où on va un petit peu tout mélanger, la fête, les scandales, l'argent, et le goût et les objets. Et puis de l'autre côté, il y a avec ce tableau, d'une certaine manière, la nostalgie et une autre historiographie qui est celle qui va être plutôt liée à la publication de mémoires de gens qui ont vécu sous le Second Empire. Progressivement, il y a aussi, voilà, une image nostalgique qui va s'installer d'une époque qui a été aussi une époque heureuse, une époque prospère, une époque faste, créative, voilà, il y a une sorte de rêve un petit peu qui s'installe. Et d'une certaine manière, on présente un peu les deux, et finalement cette double lecture, elle est quasiment encore vivace aujourd'hui. Et on voit que le Second Empire, dans la presse ou dans d'autres domaines, suscite encore des passions, des débats politiques aussi. On croit toujours qu'il faut interpréter cet empire à l'aune de nos critères politiques actuels. Est-ce que Napoléon III a été de gauche ou de droite, par exemple, ça revient. Et puis est-ce que c'était une époque heureuse ou pas? Il y a toujours cette idée de mémoire un peu concurrente, la mémoire du peuple qui a souffert sous le Second Empire et puis la mémoire, au contraire, d'une époque faste pour le domaine de l'art. Et donc nous, voilà, on a essayé de présenter un petit peu l'ensemble et en même temps, voilà, ces deux tableaux permettent peut-être de soulever encore un peu, de susciter ce débat.
Paul Perrin, Napoléon III, ne survivra pas très longtemps finalement à la chute de son propre empire.
Non, Napoléon III, en fait, il meurt en exil en Angleterre en 1873, des suites d'opérations en fait, qui avaient pour but de lui retirer des calculs rénaux. En fait, il souffrait de la maladie de la pierre depuis déjà plusieurs années, ça l'avait beaucoup affaibli. Et donc, c'est un souverain malade en fait, qui est en exil, et donc il meurt des suites de cette opération en 1873.
Et dans des souffrances épouvantables, parce que son calcul était impérial aussi.
Et sous les gravats.
Merci beaucoup.
Merci.
Son Yvan Turc, réalisation Françoise Camard, une déambulation d'Anaïs Quin.
Jadis régnait un prince joli comme le jour,
joli comme le jour.
Les dames de province pour lui mouraient d'amour,
pour lui mouraient d'amour.
L'une la plus jolie, mignonne et faible, pour passer son envie, s'en fut droit à la cour. Pom pom,
pom pom,
pom pom,
pom pom, pom pom, pom pom.
Bon prince aux cheveux bouclés, ouvrez-nous à l'instant même. Ouvrez, gentil prince, ouvrez à la femme qui vous aime. Bon prince aux cheveux bouclés, ouvrez-nous à l'instant même. Ouvrez, gentil prince, ouvrez à la femme qui vous aime. Pom, 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 pom. Ouvrez, mon gentil prince, ouvrez. Pom, 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 pom. Ouvrez, mon gentil prince, ouvrez.
Demain, pour conclure cette série consacrée au Second Empire, nous allons nous demander ce qu'était ce régime, une dictature qui se voulut libérale à la toute fin du règne de Napoléon III. C'est ce que nous verrons avec deux historiens qui nous accompagneront pendant cette heure d'émission. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission-ci ou toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Notre adresse, c'est Fabrique FC.